présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Il est surpris de la voir habillée comme une reine, ravissante mais comme une reine. Il s'attendait à ce qu'elle revienne à lui, les cheveux défaits, les habits en loque, puisqu'elle avait vécu souffert, misère et ce qui lui était arrivé, quelque chose alors et là il voit qu'elle est habillée comme une princesse, se dit que pendant que lui se faisait du souci pour elle, elle a mené la belle vie. Mais malgré ses déceptions, il est heureux de la revoir, parce que si elle est de retour, c'est qu'elle tient à lui. Il accourt à elle. Brigitte la prend dans ses bras, lui donne des baisers. Que je suis heureux de te revoir. Et lui dit, moi aussi. Elle lui dit, nous ne séparons plus, n'est-ce pas? Elle lui dit, oh non. Elle lui dit, viens, allons chez moi. Il la prend par la main, l'amène à une belle voiture de tourisme rouge. Elle est surprise. Il lui dit, j'étais obligé de passer mon permis. Ça a été dur, mais j'y suis arrivé. Et puis, j'ai une bonne place à Fremblanc. Elle est déçue. Elle s'attendait à revoir Cliff comme elle l'avait quitté. Un Cliff romanesque. Un Cliff de conte de fées. À demi nu, sans rien. Et là, il est devenu un beau jeune homme, bien habillé, avec une voiture magnifique, et travaille au siège le plus prestigieux du monde. Tout ça est moins romanesque que son Cliff à moitié nu. Il ouvre la portière et lui dit, entre. Elle entre et il met la voiture en route. Elle lui demande, tu habites où? Elle lui dit, dans le même quartier, la même rue, mais un autre immeuble et un autre appartement, plus grand, plus beau. C'est Judith qui m'a trouvé ça. Elle lui demande, tu vois souvent Judith? Oh oui, bien sûr. C'est une brave femme et qui m'aide beaucoup. Brigitte, un pincement au cœur. Il a arrêté sa voiture, avenue de l'Opéra, devant un immeuble luxueux, ultra-moderne, Fremblanc, luxe. Et l'a fait rentrer dans son immeuble. Hall d'entrée, avec un véritable jardin d'hiver, avec cascade. C'est très beau. Métal, vert, marbre. De grands escaliers de verre et métal, argent. Il y a une banque avec un concierge, habillé en rouge, comme au siège. Il l'amène à l'ascenseur. Et lui dit, c'est au dernier étage. Oui, c'est au dernier étage. Entre. Il y a une immense terrasse avec piscine, grande baie vitrée. Vue sur la terrasse des toits de Paris. Il a 5 pièces, salle de bain équipée. C'est Judith qui l'a meublé et décoré, moderne, blanc et métal. Il y a des cheminées en pierre apparente moderne. Salon, salle à manger. Des cheminées. Et même dans la chambre. La salle de bain est en marbre. La cuisine est équipée. est équipé avec des meubles blancs et métal. L'appartement est climatisé. Après avoir vu tout ça, elle lui dit « Mais c'est magnifique !» Elle lui dit « J'y suis pour rien, c'est Framblin et Judith, comme je travaille avec eux. » Alors, j'ai pu avoir ça, sans compter mes cartes que j'ai davantage, sont beaucoup davantage. Elle lui dit, je me sens un petit peu nu devant toi. Il lui dit, oh, il n'a pas à te sentir nu, puisque nous nous aimons. Et puis, comme tu es habillé, tu as fait ton chemin toi aussi. Elle lui dit, ne crois pas ça. Si on ôte tout ça, il n'en reste rien. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Il lui dit, avant, nous allons manger, j'ai faim. Elle lui a tout dit. Il était surpris, mais en même temps heureux qu'elle n'ait pas changé. Ce qu'elle porte, ce n'est rien. Et ils décident, c'est de vivre ensemble. Il lui dit, tu resteras chez moi. Je gagne suffisamment pour deux. Je suis si heureux de te revoir. Elle lui dit, moi aussi. La première nuit a été très douce. Très très douce. Juste des caresses. Il ne veut pas aller plus loin parce qu'il la respecte. Et elle est heureuse que ça n'aille pas trop loin. Que ça se passe comme ça. Parce qu'elle sent qu'il la respecte et l'aime. Lancer tous les deux à se faire des câlins, c'est tout de même mieux que le reste. Ils sont heureux de se retrouver. Cliff lui a dit ce qu'il a fait durant tout ce temps. Et la vie commence pour eux. Pas la même vie qu'ils ont vécue, puisque Cliff a de l'argent et qu'ils ont ce qu'il faut. Cliff va à son travail le matin et revient le soir. Elle reste chez lui, n'ose pas sortir. Elle lui prépare de bons repas, lui lave son linge et lui fait le ménage. Elle a décidé, c'est de se distraire. Et de reprendre pour se distraire ses cours sur Internet. Ça distraira et ça permettra d'écrire une histoire d'amour comme elle vit avec Cliff. Parce qu'elle prend des cours de littérature. Cliff pense à elle. Constamment durant la journée. Leur bonheur est un bonheur calme, doux. Ils savent qu'ils s'aiment, il n'y a pas de tension entre eux. Cliff lui apporte des fleurs, lui fait de munis cadeaux et lui dit des mots doux. Il lui dit aussi, c'est de s'acheter des choses. Mais elle lui dit, je ne suis pas sortir, tu comprends? À cause du terme. Il lui dit, je comprends. Si nous allions à la police, il lui dit, il doit y avoir des adeptes, même dans la police, et peut-être même chez Franc-Blanc. Il lui demande, qu'allons-nous devenir? Il lui dit, attends peut-être qu'il va accepter ma disparition. Cliff n'a rien dit à Judith, ni à la lapin. Elle le voit le soir courir, prendre sa voiture, mais il est toujours seul. Judith est triste. Elle ne voit plus son petit chéri. Ça lui manque. Au siège, parce qu'elle croise, elle lui demande ce qu'il a. Qu'est-ce que tu deviens? Il lui dit, je vais très bien. Et lui fait, je te vois plus. Il lui dit, j'ai beaucoup à faire, préparer mes voyages et tout. Il lui dit, mais avant, tu avais tout ça, mais ça ne t'empêchait pas de venir me voir. Il lui dit, je suis très pris. Mais plus tard, elle le trouve bizarre. Décide de faire son enquête. Elle a responsabilité de sa protection. Elle décide, c'est de téléphoner à son concierge de son immeuble. Allô, je suis Judith Claire. J'aimerais avoir des renseignements sur Cliff. Recours-toi. Est-ce qu'il vit seul? Il lui dit, il a chez lui une jeune fille. Judith lui demande, vous savez qui elle est? Il lui dit, Brigitte Claire, j'ai entendu ce nom une fois. La fille est très bien. Judith lui dit, merci. Surveillez. Et s'il cache quelque chose, on ne sait jamais. Vous me prévenez de suite. Bien, madame. Merci. Et elle a décroché. Elle se dit, c'est bien de mettre les gens que l'on doit surveiller dans des résidences en blanc. Comme ça, on a des informations de suite. En réalité, les résidences en blanc de luxe sont des résidences prison de luxe sous haute surveillance. C'est la prison de l'avenir. Être en prison sans savoir, et ça coûte moins cher. Pas de frais de nourriture, de nettoyage, etc. C'est le détenu, si l'on veut, qui paye tout en travaillant. Judith est inquiète. Cette Brigitte Claire est dangereuse. Cliff. Elle prévient l'homme en noir dans sa maison. Il lui dit, c'est dangereux, il faut l'éliminer. Elle lui demande, comment? Il dit, j'ai peut-être une idée. Les jours passent. Cliff et Brigitte sont très heureux. Un soir, Cliff lui dit, c'est ridicule de rester enfermés comme ça. Il faut que tu sortes, que nous sortions. Devrions aller à des soirées chez des amis. Elle lui dit, si tu crois que je ne risque rien, il lui dit, s'ils cherchent après toi, ils peuvent te prendre même ici. Elle panique. Il lui dit, s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ne le feront pas. Et ils sortent ensemble, font des courses ou un restaurant. Brigitte se met à aimer sortir. Elle est restée enfermée depuis tellement longtemps chez Terre et maintenant chez Cliff. Et puis, elle veut se sentir bien. Oui, elle veut se sentir bien. Les beaux lieux, chez eux, dans le pays de Loire, reçoivent une invitation pour une soirée à Paris chez Franblanc. Il dit à sa femme,
devant y aller.
Mais ils sont allés à Paris. Prennent leur appartement qu'ils ont là-bas et se préparent pour la soirée. La mère est toujours aussi dépressive et a toujours une forte haine contre Cliff. Elle pense qu'à son malheur, et comme son malheur vient de lui, lorsqu'ils arrivent, il y a déjà beaucoup de monde. La soirée se passe dans un hôtel particulier de l'avenue Velasquez. Les beaux lieux suivent la foule qui monte au salon. En haut des escaliers se trouvent les Francs Blancs. Qui disent bonsoir à leurs invités. Lorsque c'est à eux, Monsieur Franc Blanc lui tend la main, une main molle, et leur dit, lui dit « Merci d'être venu !» Et, sans le voir, la passe à sa femme qui dit « Enchanté !» Elle dit à la femme Beaulieu sans la voir « Vous êtes ravissante, ma chérie !» Madame Beaulieu, qui se sent comme si elle était devant la reine, lui dit, merci madame. Monsieur Beaulieu enrage d'être traité comme ça, comme en rien. Mais ce qu'il ne sait pas, ce pauvre Beaulieu, c'est que les Francs Blancs font à tout le monde la même chose. Il faut les comprendre. Ils doivent souhaiter la bienvenue à des milliers de personnes. Toucher les mains et leur dire un mot. Ils ne peuvent pas faire autrement que de cette façon. Et puis, ce serait trop long de personnaliser les bienvenus. Il dit à sa femme, il nous prend vraiment pour des rien du tout. Elle lui dit, tu ce doit être ce Cliff qui a dû les monter contre nous. Il lui dit, ne dis pas de bêtises. Et il se retire. Lui va voir s'il ne trouve pas quelqu'un pour parler affaire. Elle, voir des nouvelles de ces dames. En passant devant le lapin, la femme à tête de cheval, elle se demande ce que c'est que ces deux-là. Elle se dit, sans nul doute, des femmes de service du siège. Franblin est obligé, pour ses soirées, de mettre un pourcentage de son personnage à cause du comité d'entreprise. Le pauvre, ce ne doit pas être marrant. Elle entend la lapin dire, moi, je sais pourquoi Cliff ne sort plus ses Judith, ne va plus ses Judith, et qu'il m'a laissé tomber. C'est parce qu'il vit avec une jeune fille, une dénommée Brigitte Claire, la nièce d'un prêtre. Madame Beaulieu se dit, Cliff est à Paris et avec une jeune fille. Elle se dit, si je ne peux pas avoir Cliff, je pourrais me venger sur la fille. Elle va vers les deux femmes et leur dit, alors mes braves, comment allez-vous? Ça boum, on frotte, on balaye, c'est pas trop sale. Elle veut faire du social et montrer qu'elle sympathise avec le peuple. Elle leur dit aussi, vous n'avez rien bu. Il est vrai qu'il n'y a pas du bon Marnia ici, mais le champagne passe bien. Les deux femmes se demandent ce que leur veut cette femme qui parle d'une façon bizarre. Elle dit à la lapin, vous n'en voulez pas, ma fille? Le lapin, flatté, lui dit, merci, je ne savais pas que je faisais si jeune. J'ai pris des pilules de rajeunissement. La Beaulieu, qui trouve que l'introduction a assez duré, leur dit, je suis sûr que dans votre travail, vous devez avoir beaucoup, connaître beaucoup de choses. En savoir beaucoup de choses, en nettoyant les bureaux, les papiers qui traînent et tout. Vous devez en savoir des choses. La lapin lui dit, c'est ma spécialité. Il ne faut bien, je réponds aux gens. Alors, certainement, pour pas avoir l'air bête. L'autre lui dit, oh oui, bien sûr. Alors, vous devez tout savoir. Bien sûr, posez-moi une question sur le groupe et je vous donne la réponse. L'autre lui dit, savez-vous par exemple où habite Cliff Recourtois? La lapin lui dit, ce n'est pas une question sur le groupe. Oui, mais puisque vous savez tout, alors, la lapin lui dit, je vois, vous êtes une de ses admiratrices. Je vous comprends. Bon, je peux vous le dire, mais c'est un secret. Il habite à l'opéra. Merci, ma fille. Je suis flatté. Mais vous avez raison, je suis une jeune fille. Madame Beaulieu s'éloigne, elle en sait assez. Mademoiselle Lapin dit à la femme à la tête du cheval, je me demande qui est cette femme si charmante. Je vais demander à Judith. Elle laisse sa femme à tête de cheval et va voir Judith. Judith, toi qui connais tout le monde, peux-tu me dire qui est cette femme charmante? Laquelle, mademoiselle Lapin? Celle-là. Judith dit, c'est Madame Beaulieu, la femme d'un de nos associés. Il fabrique des armes pour nous. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que elle m'a dit que j'étais sa fille. Encore. tête. Moi, je ressemble à une jeune fille. C'est très flatteur. Je lui demande, hey, de quoi avez-vous parlé? Elle lui dit, c'est une fan de notre clip. Et voulait savoir son adresse. Puis je lui demande, j'espère que tu ne l'as pas donné, mademoiselle la famille. Si, elle est toute rouge. Judith furieuse lui dit, tu n'as pas le droit de donner les adresses de nos employés. C'est interdit. Je suis aussi confus, mais elle m'entendait tellement sembler bien, et puis elle était si aimante. Eh bien, ça va pour cette fois, la panique. Elle voulait même me faire du mal en rien. Il paraît que c'est délicieux. Je vais en demander une buffette. Elle s'éloigne. Pendant ce temps, M. Tremblant va vers M. Beaulieu. Il lui dit, quitte mon bras. Monsieur Beaulieu, discret, on l'appelle comme ça. Monsieur Tremblant lui dit, je sais, c'est que vous avez la différence avec Monsieur Recourtois. Je vous demande, même je vous donne l'ordre de ne plus nuire, ni de toucher à ce jeune homme. Il est intouchant. Vous comprenez? Beaulieu lui dit, oui, monsieur le président. Tremblant lui dit, si vous touchez à un cheveu de ce jeune homme, je supprime vos commandes, rachète vos entreprises et vous n'avez plus l'humilité. Tremblant, vous savez ce que ça veut dire? Oui, monsieur le président. Tremblant lui dit, calmez aussi votre femme. Elle nous fatigue avec ce qu'elle dit de monsieur Heureux. Sur monsieur Recourtois. Sa colère haineuse devient ridicule. Vous avez compris? Oui, monsieur le président. Bien. Le soir, en se déshabillant dans leur chambre, il lui dit, tu ne dois plus chercher à nuire à Cliff. Le président m'en a parlé. Et si tu continues à le dénigrer ou à l'accuser de quelque chose, nous sommes perdus. Il me l'a bien fait comprendre. Nous finirons tous les deux dans les rayons du supermarché pour aliments, pour chiens. Tu as bien compris? Elle lui dit, oui, je te le promets, je ne toucherai pas à ce jeune homme et ne parlerai plus de lui. C'est bien, ma chérie. Il l'embrasse sur le front. Elle lui dit, une page est tournée, la vie doit continuer. Un matin, ils prennent tous les deux leur petit déjeuner. Il lui demande, tu as toujours l'intention de faire les couturiers?
Oui.
Bien, moi, je vais m'absenter quelques jours pour mes affaires. Je te laisse à Paris. Mais attention, sois sage. Je te fais confiance. Tu as compris?
Oui, n'aie pas peur. Fais-moi confiance.
Thank you.
mais elle reste seule. Décide d'aller à vue de l'opéra en voiture. Là, elle passe sa journée, fin de journée, et même le soir des fois. Elle surveille l'immeuble et les allées et venues. Elle voit qu'ils sont ensemble, la main dans la main. Et se dit,
il a vite oublié la pauvre fille.
Elle passe plusieurs jours à les espionner. Heureusement, le car au lieu du métro. Madame Beaulieu suit le car. Heureusement qu'il y a peu de circulation. Les gens sont déjà rentrés chez eux. À chaque arrêt, elle surveille les gens qui sortent du car. Puis, elle la voit sortir du car. Vite, heureusement qu'il y a de la place sur l'avenue. Brigitte marche à pied. Elle la voit appuyée sur l'interphone d'un vieil immeuble bourgeois. Vite, elle va garer sa voiture. Le boulevard est vide, la circulation, il y en a très peu, donc elle a pu garer sa voiture facilement. Et d'un bond, elle est derrière Brigitte. Brigitte appuie sur la porte de l'allée. Elle tient la porte pour entrer. Et entre en même temps. Même temps que Brigitte, qui croit que c'est une habitante de l'immeuble. L'allée est vide. Brigitte va vers l'ascenseur. Elle appuie sur le bouton pour le faire venir. Et attend. Madame Beaulieu est derrière elle. Elle sort de la poche de sa veste, un revolver. Elle a tiré. Et Brigitte est tombée en avant. La balle a touché le haut de la tête. Madame Beaulieu lâche l'arme. Et se sauve en courant. Sortie de l'immeuble. Elle voit, comme dans un brouillard, va vers sa voiture pour la prendre. Une voiture Rolls noire arrive à fond de train. Sur elle, la fait tomber. L'écrase en passant dessus, elle est morte d'un coup. Dans la Rolls, il y avait la dame en noir. Le bruit, le coup de revolver, l'accident de voiture, les gens se sont mis aux fenêtres de l'immeuble et vont voir dans l'allée. On appelle la police. La police prend les corps. Les témoignages, l'identité des victimes. Bien entendu, en trouvant les cartes dans les vestes de la victime. Les victimes sont allées, les corps en tout cas sont allés à la mort. Judith, de suite, téléphone au ministre de la Justice chez lui.
Allô, monsieur le ministre ?
Oui, madame.
Je m'excuse de vous déranger, mais je suis Judith Lair. Téléphone, parce que nous avons eu dans notre quartier et dans un de nos immeubles un incident. La police est venue sur les lieux comme c'est leur devoir.
De quoi s'agit-il ?
Oh, rien de bien important. Disons, un simple incident, rien. Malgré tout, de mort violente. Je vous téléphonais, c'est pour vous dire que cette affaire est... doit être prise comme une histoire interne franc-blanc. Mes hommes en noir s'en occuperont. Je vous demande, c'est de laisser tomber. Le ministre lui dit,
bien madame. Je vais donner des ordres. Ça nous donnera du travail en moins. Des cadavres, nous en avons autant que nous en voulons pour nous occuper.
Merci, monsieur le ministre.
Et elle raccroche. On découvre, grâce à leur carte, le nom des victimes. Le mari, qui est en voyage d'affaires en Amérique, apprend par fax la mort de sa femme et les circonstances de sa mort. Monsieur Beaulieu est effondré. Il rentre à Paris de suite.
Où est Stasi ?
Il est rentré de suite à Paris. On lui présente à la morgue le corps de sa femme, qui est morte à cause d'un chauffard. Il prend le corps. Pour le ramener dans son pays. pour l'enterrer dans son pays. Mais il comprend ce qui s'est passé. Parce qu'il a lu dans les journaux qu'une jeune fille était morte d'un coup de revolver dans un immeuble près où a eu lieu l'accident de sa femme. Il se dit, cette idiote, elle ne m'a pas écouté. Elle a tué la fille. Elle s'est fait tuer. Elle a été tuée, et la lutte Judith. Moi aussi, je risque d'être tué et d'effondrer. Il se dit que c'est Judith qui a dû la faire tuer lorsqu'elle a su ce qu'elle avait fait. Il la ramène dans son pays en corbillard, effondré. Pour lui. Cliff, en revenant de voyage, trouve une convocation de la police. Il n'a pas retrouvé Judith chez lui, mais pense qu'elle a dû sortir. Il va à la convocation. Là, le commissaire lui dit avec ménagement que la jeune fille qui vivait avec lui car il l'a appris à cause de l'adresse de Cliff sur sa carte qu'elle avait mise. Elle a été tuée d'une balle dans une allée et que son assassin a disparu. On ne sait pas qui est. Cliff est effondré. Il pense que c'est Terre qui a fait ça. Il ne pense pas à demander dans quelle allée elle a été tuée. On lui demande s'il veut voir le corps. Il dit oui. On le mène à la morgue. Là, Brigitte a un pansement sur la tête. Il est effondré. Il dit qu'il viendra chercher le corps. Dès qu'il sera va l'enterrer. Et après, il se met à courir chez Judith. Oui, Judith, sa seule amie. Thank you. avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Care. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.